Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante pour ce Midi Magazine. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Lancer un magazine papier ». Mes trois invités sont des journalistes qui viennent de participer précisément au lancement d'un nouveau Newsmag en kiosque. La fin de l'année 2017 et le début de 2018 ont vu le lancement simultané de plusieurs nouveaux magazines qui ne sont pas tous de même nature. D'un côté, on trouve des médias qui s'inscrivent dans la tradition d'un certain journalisme politique, comme le nouveau magazine littéraire, relancé par Raphaël Glucksmann. Son ambition affichée est de réarmer intellectuellement la gauche. Mêmes ambitions du côté du magazine en ligne AOC, fondé par le journaliste Sylvain Bourmeau. À l'autre extrême du spectre politique, on a annoncé la création d'une web télé de droite baptisée La France Libre. Et on hésite sur la manière de qualifier le support télé de la gauche insoumise, qui s'appelle justement le Média et qui semble appartenir plutôt à la famille des organes partisans. Voilà pour la presse politisée. À côté d'elle, on a assisté au lancement de plusieurs magazines qui entendent renouer avec le reportage et la tradition du journalisme professionnel. Deux magazines papier généralistes. Hebdo est vraiment. Hebdo a été lancé par Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, qui sont connus pour avoir créé avec succès les MOOC 21 et 6 mois. Hebdo a pour directeur de la publication Thierry Mandon, ancien secrétaire d'État à l'enseignement supérieur du gouvernement Valls. Le magazine Vraiment, lui, a été fondé par Julien Mendès et d'autres, qui est avec nous aujourd'hui, Julie Morel et Jules Lavie de France Info. Et enfin, parmi toutes ces créations, on trouve un magazine culturel, Putsch, magazine multimédia lancé par Nicolas Vidal, qui avait déjà lancé BSC News il y a 10 ans, dont Putsch est la nouvelle déclinaison. Pourquoi lancer un nouveau magazine aujourd'hui? Avec quel risque et pour quel public? Nombre de ces projets ont en commun d'être portés par des journalistes chevronnés. Faut-il y voir une volonté de contrer les fausses nouvelles des réseaux sociaux et de renouer avec un vrai journalisme de métier? Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Gaëlle Mac, vous êtes rédactrice en chef du magazine Hebdo, sans H. Vous avez été pendant plusieurs années journaliste au Monde et à Challenge, spécialiste des questions budgétaires et fiscales avant de vous lancer aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Bonjour Julien Mendès.
Bonjour.
Julien Mendès, vous êtes docteur en sciences économiques. Avant de cofonder Vraiment, vous avez été enseignant. Vous avez également travaillé au ministère de l'économie pendant plusieurs années. Vous avez été d'ailleurs conseiller au cabinet du ministre de l'économie et du ministère de l'économie au temps où l'actuel président de la République y était. Bonjour Nicolas Vidal.
Bonjour.
Nicolas Vidal, vous êtes journaliste culturel, directeur de la publication et rédacteur en chef du magazine en ligne BSC News qui devient le Média Putsch. Alors, question pour vous tous, est-ce que à l'origine du lancement de vos magazines respectifs, il y a l'identification peut-être d'un manque dans l'offre de Newsmag? Parce qu'on a quand même plein de magazines en France, en tout cas de magazines à la fois généralistes et culturels. Pourquoi vous vous dites là, il faut y aller, Gaëlle Mac?
Oui, il y a quand même, je pense, un sentiment d'une certaine usure, d'une certaine uniformité, d'un certain ennui, je pense, à lire la presse généraliste, enfin les hebdos aujourd'hui. Et c'est vrai que, alors que c'est un climat quand même un peu de crise pour la presse, ça donne envie de regarder si on peut pas faire les choses autrement. C'est vrai que les unes se ressemblent, qu'on a l'impression de voir un peu toujours les mêmes sujets, que ça a un côté très parisianiste, très politicien, très people, enfin voilà. Donc il y avait certainement de la place pour des nouvelles idées.
Par exemple, à Hebdo, sur les couvertures qui sont sorties, à part une couverture avec en ombre chinoise, on va dire, il n'y avait pas de volonté, par exemple, de mettre la tête d'un homme politique, comme on peut le voir quasi systématiquement en couverture de l'Express, par exemple. C'était pas du tout, il n'y a pas l'idée d'aller vers une personnalisation politique ou ce type de une, ça va peut-être venir, mais j'ai
non,
pas l'impression.
Non, clairement, nous, on n'est pas très intéressés par la partie politicienne de la politique. Hein. La politique, il y a de la politique dans tout. Pas question de l'éviter, mais en tout cas, la politique politicienne, nous, on ne traite pas Laurent Wauquiez qui devient président des Républicains. Je pense qu'on arrive à mettre peut-être le nom de Emmanuel Macron une fois par journal au maximum. Voilà, on fait pas de papier de ce genre sur, je sais pas, le congrès du Parti Socialiste ou le Front National doit-il changer de nom. pour nous, ça occupe déjà beaucoup de place, beaucoup de buzz, et c'est déjà très raconté, et c'est pas le fond, nous, c'est pas le pouls de la société, c'est pas ce qui se passe dans la vie des gens, c'est pas ce qui compte.
Est-ce qu'il y avait aussi donc le sentiment d'un épuisement de l'offre, ou en tout cas d'une volonté de renouveler cette offre ?
Oui, bah pour nous, vraiment, au-delà du renouvellement, c'est le constat qu'aujourd'hui, nous avons tous accès à l'information immédiate, l'information quotidienne, l'information, l'actualité chaude, comme on dit. Elle est disponible partout, sur Twitter, sur la télé, la radio, sur les quotidiens, que ce soit numérique ou papier. Et notre sentiment, c'est qu'on ne peut pas se contenter de cette information si on veut comprendre l'époque dans laquelle on vit et si on veut donc être capable d'agir dans cette époque. Et donc, pour nous, il y a le besoin d'un titre, d'un hebdomadaire, pour ceux qui nous concernent, qui prennent le temps d'aller chercher, fouiller au-delà de cette actualité chaude, des sujets détachés de cette actualité chaude, des sujets de société, d'économie, l'international aussi, qui pour nous est très important, pour aller approfondir ces sujets, pour aller fouiller ces sujets, et pour aller rentrer dans la complexité du monde dans lequel on vit, qu'on ne peut pas traiter lorsqu'on traite l'actualité chaude. La complexité des idées, la complexité des faits, et c'est de ça que l'on souhaite rendre compte à vraiment.
Nicolas Vidal.
Pour nous, chez Pouch, l'analyse qu'on a faite, c'est qu'on estime aujourd'hui qu'il y a une uniformisation des contenus. Et on a voulu donner accès au plus grand nombre, au pluralisme des voix. Voilà, avec un spectre très large. Nous faisons de la culture, bien entendu, c'est évident. Mais on a quand même des invités chez nous qui sont extrêmement larges, extrêmement. Avec des voix très discordantes. Et ça nous permet, effectivement, on avait reçu Augustin Trappenard comme Laurent Oberton. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la actualité, pas du tout dans le buzz non plus, on est bien essentiellement dans la culture et il nous semblait important d'apporter ce pluralisme des voix pour que les lecteurs se fassent une idée. Donc chez Pouch, c'est vraiment la ligne éditoriale qui prime, c'est cette ligne-là qui prime et qui va primer au fur et à mesure des mois et j'espère bien entendu au fur et à mesure des années. Voilà.
Est-ce que quand on lance un magazine, il y a l'influence de grands modèles étrangers type The New Yorker ou type Der Spiegel ou on n'en est plus du tout là, ou c'est vraiment, voilà, il n'y a pas une inspiration à ce point ou la volonté de faire comme eux.
Je pense que, en tout cas, dans la réflexion qu'on a eue pour lancer vraiment, il n'y a pas la volonté de faire comme ce qui se fait à l'étranger, mais il y a quand même le constat d'un écart entre ce qui se fait à l'étranger et ce qui se fait en France. Et il nous semble que dans la plupart des pays industrialisés au moins, il y a ce modèle d'un hebdomadaire qui marche bien, qui est souvent qui n'est pas partisan, qui produit des papiers fouillés, des papiers assez précis. Là où en France, on est plutôt dans un modèle où les grands hebdomadaires, notamment, s'inscrivent dans des courants d'opinion, en tout cas dans des courants historiques d'opinion. Donc oui, du coup, on regarde ce qui se fait à l'étranger et on se dit qu'il y a la place en France pour faire quelque chose comme vraiment. Et on le regarde aussi sur la manière d'écrire aussi. Nous, ce qu'on va essayer d'aller chercher, on a publié une charte d'écriture d'ailleurs de la manière dont on écrit les articles dans Vraiment, c'est l'idée d'être plus factuel, plus précis dans la manière d'écrire. On ne va pas chercher à raconter des belles histoires. Voilà, pour raconter des belles histoires, aujourd'hui, il y a des séries, il y a des romans. On pense que la presse, c'est se concentrer sur les faits, rapporter des faits, rapporter des analyses, présenter les opinions divergentes aussi. Et là-dessus, je pense que notamment dans la presse anglo-saxonne, on a pas mal de modèles qu'on peut aller regarder.
L'idée aussi peut-être d'avoir des articles un peu plus longs ou des dossiers un peu plus longs, parce que parfois dans les newsmag, il y a une accroche de une où on dit grand dossier sûr, et puis le dossier fait 6-8 pages. Là, il y a l'idée peut-être d'avoir une écriture avec plus de temps, plus de longueur.
Gail oui, je pense qu'effectivement, le sujet en France, c'est vrai que les magazines sont des magazines d'opinion et sont souvent des magazines politisés et qui défendent un avis et qui, en fait, produisent des enquêtes et des reportages à l'appui de leurs idées. Donc, je pense qu'effectivement, on cherchait plus des tranches de vie. Il y a aussi quand même un vrai problème en France, c'est qu'on est un pays vraiment jacobin, parisianiste. C'est difficile d'échapper à ça parce que toutes les rédactions sont parisiennes et les gens habitent à Paris et dans la région parisienne depuis longtemps. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait déjà ce choix d'avoir vraiment des journalistes vraiment de la rédaction, pas des pigistes à temps complet qui sont à Lille, à Bordeaux, à Lorient et à Lyon, qui ne sont pas des journalistes en province, qui sont des journalistes dans les régions pour nous. Et on fait très attention à ça, à l'idée de représenter un peu la diversité de la France. Et je pense que ça, ce sont deux aspects qui nous intéressent. D'un côté, faire du reportage de terrain sans grandes idées, mais vraiment au plus près des gens, et aussi aller dans la France profonde. Et peut-être aussi, nous, le temps long, à 21, à 6 mois, on faisait ça. Donc c'est un savoir-faire qui est dans la maison, et donc on espère en hériter à Hebdo.
C'est revenu dans vos propos, mais l'idée que en France on a une presse d'opinion, donc une presse assez politisée, ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dont il faudrait s'éloigner, l'espèce de dérive à la fois le parti pris d'être dans quelque chose de politisé, ou aussi le parti pris d'être dans quelque chose de très éditorialisant, c'est-à-dire que le journaliste qui fait son papier sans jamais avoir quitté le desk et qui a des grandes idées sur les questions mais qui sait pas très bien de quoi il parle. Julien Madès.
Oui, le problème, c'est plutôt ce journalisme un peu éditorialisant, enfin en tout cas que nous on va essayer d'éviter. Après, d'avoir une presse d'opinion, d'avoir une presse politisée, c'est pas un problème en soi. Il y a des lecteurs pour ce genre de presse. Nous, ce qu'on dit, c'est plutôt que l'opinion aujourd'hui, c'est un peu comme l'actu chaude, c'est disponible partout. C'est-à-dire que sur Facebook, chacun porte son idée, poste ses idées. Sur les plateaux télé, on voit beaucoup d'éditorialistes ou d'hommes politiques, etc., venir donner leurs idées. Donc en réalité, l'opinion, c'est comme l'actu chaude, c'est disponible partout. Donc nous, on pense que la plus-value qu'on peut apporter, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas l'actu chaude, c'est effectivement d'aller chercher les faits, aller chercher l'analyse, de manière fouillée, de manière précise, sur les sujets importants du moment. C'est ça qu'on peut apporter. En ce moment, on est en train de faire des consultations avec nos 1000 premiers abonnés. Alors, tu as des questionnaires qui peuvent nous renvoyer. Et puis, on a organisé des réunions avec eux la semaine dernière à Marseille et à Paris. Puis, on va continuer dans toute la France. Donc, on leur a envoyé nos numéros zéro et on en parle avec eux. Et c'est extrêmement enrichissant. Et notamment, pour l'instant, j'en retiens notamment deux demandes de nos lecteurs. La première, c'est quand je lis un journal... Je le fais pour... En tout cas, je lis la presse pour m'élever. C'est ça que doit m'apporter un article de presse. Et donc, ça suppose forcément, notamment des papiers longs. Parce que ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'entrer dans un sujet d'une manière parfois un peu factuelle, un peu parfois par l'anecdote. Et puis, progressivement, le journaliste doit emmener le lecteur vers des faits plus complexes, parfois contradictoires, parfois qui ne sont pas intuitifs. Et puis ensuite, d'apporter des idées aussi, que ce soit des idées des éléments apportés par des chercheurs, des éléments, différents éléments de débat sur un sujet. Et ça, nos lecteurs me disent, je veux m'élever. Et la deuxième chose que je veux, c'est sortir de ma bulle. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, avec Facebook, avec Twitter, si je me contente de ce que l'information que l'on m'apporte, je suis dans une bulle d'information. J'en ai conscience. Quelque part, ça me plaît aussi, hein, je consulte aussi les réseaux sociaux, mais comme j'en ai conscience, je veux aussi en sortir, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le journal, et notamment le journal papier, pour le faire.
Est-ce que quand même, dans le choix d'un angle, il n'y a pas quelque chose de profondément politique, ou en tout cas qui se discute dans une rédaction, la manière d'angler et d'entrer dans un sujet? Quand vous parliez de Laurent Oberton, La France, oui, Orange Mécanique, il y a un choix, alors qui ne reflète pas forcément la couleur politique de la rédaction, mais de dire, on entre.
Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Nous, on fait chez Pouch, on a ce constat qu'on se tourne vers les lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs, en même temps, on doit leur apporter ce pluralisme des voix, cette sagacité. Parce qu'on part du principe, je l'avais déjà dit, chez Pouch, on prend pas les lecteurs pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'on leur propose une multitude de sujets à eux, de façon traitée, de façon très longue, c'est-à-dire qu'on laisse la parole aux invités. On fait quand même des interviews qu'on avait précédemment, le BSN Magazine, de 8-9 pages, qui est important pour une interview. On laisse l'invité s'exprimer, et ensuite c'est au lecteur de se faire sa propre idée sur le sujet que nous avons abordé. Il n'y a pas de militantisme chez nous. Chez Pouch.media, on va s'en tenir aux idées. Voilà, on invite des gens, ça part du postulat éditorial du journaliste, mais nous, à aucun moment dans le choix des invités, on se dit, on va effectivement, je suis assez d'accord avec vous, Gabriel Max, sur cette espèce de papier à charge, ou parfois d'interview à charge, où on reçoit quelqu'un pour essayer finalement d'avaliser une idée qu'on essaie de faire passer dans son titre. Voilà, nous, pas du tout. Tout à l'heure, je prenais cet écart, effectivement, entre Augustin Trapenard et Laurent Oberton. On est quand même sur des sujet extrêmement très très large, le spectre est très large, mais chacun doit a le temps de parler, a le temps de s'exprimer et argumenter une idée, voilà, ou plusieurs idées. Et c'est au lecteur, à un moment donné, de se faire sa propre idée et son propre jugement, parce que je pense que ce genre, chez nous, c'est la culture qui fait débat, et je pense que le débat aujourd'hui est le sillon fécond de la démocratie, et dans un pays comme le nôtre, ça le mérite, et Putsch va essayer de s'insérer dans cette espèce de cadre-là, j'ai envie de dire, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un cadre au moins démocratique. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude sur le fait que le lectorat serait friand plutôt d'hyper-local? Moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, sur on veut l'actu du coin de la rue, et la PQR marche relativement bien, et là, on parlait de leur offrir du reportage, de l'international. Est-ce que tous les lecteurs sont prêts à sortir de leur bulle, y compris de leur bulle géographique? Si vous avez des retours là-dessus. Mais il y a vraiment... voilà, moi, j'ai vu passer un appétit très fort pour le local, le quartier, la ville.
Oui, mais c'est pas contradictoire. Aujourd'hui, je pense que le temps où on avait un média par lequel on s'informait, que ce soit le journal quotidien, le journal du soir à la télé, c'est terminé. Aujourd'hui, chacun est informé par plusieurs médias. Et donc, on peut très bien être abonné à Vraiment, et puis à Médiacité, et puis écouter votre radio. Aujourd'hui... les médias sont complémentaires entre eux. Et d'ailleurs, nous, on ne se présente pas comme un média de substitution. On ne dit pas « arrêtez de lire Le Monde, lisez Vraiment ». On disait « vous aimez Le Monde, ben, vous pouvez compléter votre lecture en lisant Vraiment ».
L'autre élément, alors peut-être qui a présidé au lancement de vos projets et de vos magazines, c'est la crise de défiance qui semble s'être établie entre une partie du lectorat et la presse, qui est accusée de tous les maux, d'être au service des puissants, du grand capital, de mentir, et qui s'est vue concurrencée par tout le phénomène des fake news et des sites militants de réinformation. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de renouer avec un journalisme professionnel affirmé, avec des méthodes? Il y a une charte à Vraiment dont on parlera, mais de dire voilà d'où on écrit, voilà notre métier, et voilà, on va essayer de réhabiliter aussi ce journalisme pour contrer cette défiance.
Certainement, en tout cas, nous on a vraiment une volonté d'être pédagogique. Si vraiment il y avait un terme qu'on veut donner, on veut être vraiment bien se faire comprendre, parce que on est frappé de la confusion qui est apportée par la surinformation et du présupposé su qu'il y a généralement dans les articles de presse, du fait qu'on ne parle plus du ministère de l'Intérieur mais de la place Beauvau, qu'on utilise des termes, des acronymes sans les expliquer, qu'on évolue, nous, dans un monde surinformé. On est journaliste, on connaît beaucoup de sujets, et il faut vraiment rentrer, se mettre dans la place du lecteur et se dire, bon, mais lui, essayons de bien... L'obsolescence programmée, c'est quoi? Ça concerne tout le monde, c'est une machine à laver, votre téléphone portable, etc. Le terme fait peur, on se dit que c'est compliqué, ben non, c'est juste que les fabricants font en sorte qu'ils tombent en panne souvent pour que vous ayez souvent en racheter. Bon, voilà. Et dans le choix des sujets, ça préside aussi au choix des sujets. C'est-à-dire que, bon, on ne traitera peut-être pas les inondations parce qu'on ne sait pas très bien quoi en dire. Voilà, on fait vraiment des choix forts. On fait de l'actualité, mais on prend 3-4 sujets. Et ces sujets, on les traite parce qu'on pense qu'il y a un phénomène de société derrière, qu'il y a quelque chose à expliquer, qu'on peut aider le lecteur dans ce domaine, qu'on peut qu'on peut faire en sorte qu'il appréhende mieux le monde, lui donner des clés. Voilà.
J'ai senti ça aussi dans le numéro 0 de Vraiment que vous m'avez fait passer, l'idée d'être didactique, de faire comprendre des choses, de s'entendre sur le sens des mots. C'est aussi ça qui vous semblait important?
Oui, je partage ce qui vient d'être dit sur la manière d'écrire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un journalisme d'initié, en quelque sorte, ça c'est certain. Après, la difficulté, c'est qu'on doit naviguer entre deux exigences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos lecteurs, tout le monde dans la société, chacun est spécialiste de 2-3 sujets. On a toujours son métier, sa passion, son pays d'origine. On a toujours tous 2-3-4 sujets qu'on connaît très bien. Et lorsqu'on lit un article sur ce sujet qu'on connaît très bien, on veut s'y reconnaître. On veut qu'il n'y ait pas d'erreur. On veut pouvoir dire « Ah ben, le journaliste a bien compris mon sujet. » Et même si possible, on veut apprendre 2-3 choses. Mais d'un autre côté, ça veut dire que pour tous les autres sujets, hein, dans une époque où le savoir est quand même de plus en plus spécialisé, pour tous les autres sujets, on n'est pas spécialiste. Et on peut être un grand spécialiste d'un pays, d'une période historique, et connaître assez peu de choses sur une autre période historique ou sur un autre pays. Et donc il faut à la fois, effectivement, je suis d'accord, faut pas dire la place Beauvau, ça c'est certain, il faut expliciter ce que l'on dit, on l'a bien vu, nous, avec nos lecteurs à qui on a fait lire notre numéro zéro, on n'est jamais assez clair. La plupart des reproches ont toujours à leur source un manque de clarté dans la manière dont un sujet a été emmené, un sujet a été expliqué. Et d'un autre côté, on doit avoir une exigence qui est quasiment celle de la presse spécialisée, c'est-à-dire qu'on doit traiter chaque sujet comme si on parlait aux spécialistes de ce sujet. Donc on doit faire attention aux simplifications, aux raccourcis, et évidemment aux erreurs. En tout cas, nous, c'est les deux bouts qu'on va essayer de tenir avec vraiment, mais c'est pas toujours évident.
Cette éthique, c'est une éthique journalistique ou c'est aussi une réaction par rapport aux fake news, c'est-à-dire la volonté de rétablir aussi de la confiance, parce que ce que vous dites là, c'est au fond, quand je suis spécialiste du sujet, effectivement, je peux voir qu'il est bien traité ou pas très bien traité. Quand je ne suis pas spécialiste, je suis obligé de faire confiance en me disant, j'espère qu'ils sont aussi exigeants sur les autres sujets. Mais la brèche des fake news, elle se fait là-dessus, c'est-à-dire que on se dit, non, finalement, je leur fais pas confiance. Donc il y a aussi une ça vous a fait quelque chose, les fake news, dans cette volonté de voilà, d'écrire de cette manière-là et d'être didactique?
Oui, les fake news, bien sûr, c'est un vrai sujet, mais je ne sais pas si on le résoudra par le biais des journaux, parce qu'on a un problème d'accès à la source. En fait, on s'aperçoit que les jeunes, ils lisent pas de papier, ils lisent beaucoup, ils sont sur leur téléphone. Pour eux, en fait, ils ne jugent pas que Instagram est une source moins légitime que Le Monde. Ils ne comprennent pas pourquoi. En ce sens, nous, on fait aussi un peu de making of souvent dans nos papiers, et on s'aperçoit que il y a un très gros appétit des lecteurs pour ça. On fait des tournées en France, on va dans beaucoup de régions, on va dans beaucoup de villes, on va dans beaucoup de librairies, etc. On a eu un minibus qui a tourné pendant tout l'automne, tout l'hiver, qui est allé dans tous les coins. On a Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, qui est le représentant de nos lecteurs et qui va. Et à chaque fois, on s'aperçoit que les gens sont contents de rencontrer des journalistes, qu'ils ont de l'appétit à discuter et qu'ils veulent savoir comment ça s'écrit, les papiers. Et là, par exemple, Mathieu Palin est allé à Aulnay-sous-Bois un an après l'interpellation de Théo. Il raconte qu'il a essayé de joindre la mairie, qu'on lui a dit oui, puis qu'on lui a dit non, et que globalement, il a eu l'impression qu'il avait beaucoup plus de facilité à parler avec les habitants d'Aulnay qu'avec les flics, avec les policiers, qu'il essayait aussi de mettre en scène dans son article, que lui aussi, il vient d'une cité un peu comme ça, il est né par là, il comprend bien ce qui peut se passer dans ce genre d'endroit. Je pense que c'est important pour les lecteurs de comprendre le travail, comment ça se passe, le travail d'un journaliste.
Un mot sur ça, Nicolas?
Pour nous, chez Pouch, on n'est pas effectivement dans l'actualité ou dans les grands sujets de société. On est sur la culture. Donc pour moi, pour apporter un élément de réponse chez Pouch, c'est vraiment bousculer l'ordre culturel établi. On estime qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout mis en avant. Et on le disait aussi, ça peut être des voix, des écrivains, mais ça peut être aussi dans la culture, que ce soit des groupes de musique. Et on essaie de pas aller à la pêche au plan promo. Voilà, parce qu'on est souvent sollicité, vous le savez, tout autour de cette table, sur des communiqués de presse, sur des gens invités. Donc c'est vrai que nous, on prend toujours le parti du franc-tireur, parce que le franc-tireur aussi peut être culturel. Hein. Il n'y a pas que des franc-tireurs politiques, des franc-tireurs de société, des franc-tireurs culturels que nous sommes, et nous nous revendiquons de cette bannière-là, d'aller chercher effectivement des sujets culturels qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, et proposer aux lecteurs des choses qui pourraient les intéresser. Puisque l'idée même, j'ai toujours pensé que chez nous, que ce soit chez BSC News et chez Pouch, on est une rédac. Donc on doit chercher des sujets, proposer des sujets aux lecteurs. Voilà, c'est toujours intéressant de dire, nous, on a la capacité de pouvoir chercher, de pouvoir informer, donc proposer aux sujets des lecteurs, et espérons qu'ils soient suffisamment, à un moment donné, curieux pour y aller et pour se renseigner sur les choses qui les touchent pas forcément, mais qui, à un moment donné, peuvent déclencher chez eux un certain intérêt. Voilà, donc je le répète, par rapport à ça, chez Pouch, j'ai vraiment bousculé l'ordre culturel établi, et on va dire qu'on n'est pas très porté sur le mainstream, et encore moins porté sur les plans promo.
Le plan promo, c'est l'équivalent culturel culturel de l'actu chaude, c'est-à-dire c'est le moment où il faut, on se sent obligé d'inviter bien entendu, tel ou tel acteur parce qu'il a un film qui sort.
Quand vous avez un album, vous le savez, un film, vous le savez, on voit les acteurs ou les réalisateurs sur tous les plateaux télé, sur toutes les émissions de radio, et je pense que ça ne sert pas à la cause culturelle. Voilà, c'est un peu, à un moment donné, un peu de l'endogamie de l'entre-soi, et nous estimons qu'il y a tellement de belles choses qui se font en culture, que c'est dommage quand même de ne pas en parler, de ne pas les mettre en avant. Donc Pouch sera encore plus porté sur cette direction que l'a été BSC News jusqu'en décembre dernier.
On va écouter la voix des journalistes Judith Pérignon, qui est désormais journaliste radio, et Raphaël Garrigos, ancien de Libé, fondateur des Jours. C'était à la BPI en décembre 2017.
J'aurais peut-être voulu qu'on aborde un instant un côté qui, moi, je trouve important dans le reportage aujourd'hui, et vous l'abordiez tout à l'heure sur la précarité du reporter. Un reportage, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. J'ai l'impression qu'on assiste, enfin je sais qu'on assiste aujourd'hui à un tournant dans la presse qui fait que toute la presse se met à devenir payante alors qu'elle a eu, elle a cédé pendant un moment, un bon moment aux sirènes publicitaires, et il y a eu un mouvement qui a été adopté d'abord par Mediapart sous les huées d'abord, hein, tout le monde se moquait de Mediapart qui faisait un journal payant en ligne. Résultat, on en est à 150 000 abonnés, je crois, aujourd'hui, et ça va très bien pour eux, merci. Et aujourd'hui, c'est les quotidiens, tous les grands quotidiens abordent ce mouvement du payant qui va avec de la qualité, avec et qui s'accompagne forcément de reportages en plus, de cette donnée du reportage.
Le reportage, c'est du temps. Enfin, c'est le temps passé. Un reportage, c'est pas deux jours, hein. Ou alors c'est quelque chose de très très court et à vivre comme ça. Mais donc le temps passé, que ce soit en France, hein, ou à l'étranger, voilà, ça se paye. Alors si on est tout seul, comme un simple reporter écrit, c'est une personne. Si moi je fais de la radio, on est deux, trois. Voilà, c'est trois personnes qu'il faut déplacer. Une dizaine de jours ou plus. Voilà, ça, le temps est fondamental dans l'écriture, même dans l'écriture du reportage, parce qu'il y a le temps de rencontre avec les gens, puis il y a le temps de maturation. Et si on veut que les reporters travaillent bien, faut pas leur demander de... faut leur laisser ce temps et de bien faire, quoi.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Lancer un magazine papier, Gaël Mac du magazine Hebdo. Est-ce qu'il y avait une volonté, quand vous avez lancé Hebdo, de faire un petit 21 hebdomadaire? 21, c'était un MOOC, hein, qui a eu beaucoup de succès, qui continue, hein, lancé par vos fondateurs, entre guillemets, hein, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, d'avoir une version hebdomadaire du reportage?
Eh bien, pas seulement, oui, c'est en partie, bien sûr, et c'est, je pense, pour ça que beaucoup de lecteurs nous ont suivis au début, c'est parce que c'était des fans de 6 mois et de 21. Bon, on veut faire ça, et on fait du grand reportage et de l'enquête. Et aussi, on voulait faire beaucoup de témoignages, on voulait avoir vraiment une partie forte de communauté avec les lecteurs, de liens, d'interaction avec les lecteurs. Donc on a une forte partie, et on a aussi un fait maison, on a une recette de cuisine, on a des jeux, on a une histoire pour enfants. On pense pas qu'un hebdomadaire puisse être complètement déconnecté de l'actualité. On doit avoir une partie, on doit faire notre différence en dehors de l'actualité, en dehors des sentiers battus. On fait des très beaux portraits de gens qui sont toujours inconnus. On fait une 24 heures dans la vie de gens, d'un médecin, de campagne, voilà, dans le dernier numéro. Mais ça peut être d'agriculteurs qui font du théâtre, etc. Mais on doit aussi traiter l'actualité. On ne doit pas l'éviter. On ne doit pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Elle est, je veux dire, un hebdomadaire, c'est quand même un acte d'achat fréquent. C'est pas comme un mensuel. Ça ne peut pas être comme un trimestriel, ça ne peut pas être complètement hors du temps. Donc on doit traiter aussi l'actualité. Donc c'est 21 et tout le reste. Mais c'est vrai qu'on veut faire du grand reportage, on sait faire ça. Et aussi, on utilise ce lien avec les lecteurs pour aller dormir chez eux. Ce n'est pas un gadget, on le fait depuis le début et on trouve toujours des gens, on est ravis. Et souvent, ça nous donne des idées pour d'autres sujets, et ça nous donne aussi souvent un regard différent sur le sujet qu'on était venu traiter.
Donc ne pas imposer son propre agenda ou sa propre volonté éditoriale, mais partir de ce que les gens ressentent, partir de ce qui se passe réellement dans le monde social, c'est ça qui doit donner le pouls de l'actualité et le pouls du journal.
C'est un équilibre, je pense, entre le désir d'un journaliste de traiter un sujet. C'est très important que le journaliste ait envie, enfin, soit à l'initiative et choisisse un sujet, puisque bon, de ça dépendra son envie et sa façon de le traiter. Et aussi, la résonance du bruit du monde. Et en plus, pour nous, avec grâce à cet outil, la source, donc nos abonnés peuvent nous écrire et on a en fait des questionnaires assez précis dans lesquels ils peuvent dire s'ils ont des compétences pour nous aider dans un certain nombre de sujets, pour nous dire s'ils ont des idées de sujets pour nous, pour nous dire s'ils ont des sujets qu'ils ne veulent pas voir traités, qu'ils ont l'impression d'avoir trop vus. Nous appuyons dessus également pour nous intéresser à certains sujets vers lesquels on ne serait pas forcément allé au départ.
Julien Madès, il y a une idée aussi de prendre son temps. Judith Pérignon, écoutez, là, enfin, on l'entendait dans le son, elle évoquait la question du temps long, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs jours, il faut de l'immersion. Pour raconter le monde social, il faut l'avoir ressenti et être allé sur le terrain.
Oui, il faut du temps et donc il faut des moyens. Et de ce point de vue-là, le fait de ne pas être sur l'actu chaude, justement, ça facilite ça aussi. C'est plus facile de faire ces reportages longs quand on n'est pas sur l'actu chaude que lorsqu'il faut envoyer un envoyé spécial dans un pays en guerre, par exemple. Mais il faut le faire, il faut des moyens. Alors, pour moi, le pendant, enfin, il faut pas rester seulement sur ce côté aller chercher des faits sur le terrain. Ça, c'est très important. Nos journalistes le font. Par exemple, dans le numéro 0, on a un long papier sur la disparition des espèces de paiement. Et nos journalistes sont allés notamment en Suède, qui est un pays qui est très avancé sur ce sujet-là. Ils sont aussi allés en France. Et je pense que le pendant de cette recherche des faits, c'est la recherche de l'analyse. C'est-à-dire que on peut pas se contenter de rapporter des faits. On doit aussi les mettre en perspective. On doit aussi expliquer et essayer de rendre compte en quoi ces faits sont importants, en quoi ces faits disent quelque chose sur l'évolution du monde, sur notre époque. Et donc nous, on essaie de construire un rapport qui soit le plus étroit possible avec le monde de la recherche. On a organisé toute une série de rencontres avec des chercheurs pour voir comment on peut mieux travailler avec eux et pour essayer de rapprocher ces deux mondes qui ne se parlent pas assez, du journalisme et de la recherche. Et je pense que c'est, pour nous en tout cas, le rôle d'un journaliste dans un papier, c'est d'apporter à la fois les faits et l'analyse qui vont permettre au lecteur de se forger, sa propre opinion.
Alors peut-être plus l'universitaire que le sempiternel expert médiatique. Enfin, là, en l'occurrence, oui. Il y a, dans numéro 0, c'est Florent Guénard qui est maître de conférence à Nantes, qui a une vraie légitimité, si j'ose dire, qui est interviewé.
C'est tout l'idée. Il faut essayer d'aller chercher des experts qui ne soient pas ceux que l'on voit tout le temps, mais y compris dans le monde des chercheurs, où on a souvent des universitaires qui s'expriment un petit peu sur tous les sujets, pas forcément sur les sujets sur lesquels ils ont fait des recherches. Donc effectivement, c'est d'aller chercher la bonne personne à chaque fois, et pour ça, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas un écosystème de chercheurs autour de nous qui nous oriente sur la bonne personne, qui nous oriente aussi sur les sujets à traiter, sur les sujets qui montent. Et d'ailleurs, peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment qu'on ne peut pas être déconnecté de l'actualité. Un hebdomadaire et la presse, de manière générale, traitent de l'actualité. En revanche, nous ne voulons pas traiter l'actualité chaude, c'est-à-dire celle du jour. Pour être simple, on ne peut pas parler de djihadisme seulement lorsqu'il y a un attentat. On ne peut pas parler de politique étrangère seulement lorsqu'il y a une crise en Corée du Nord, au Qatar ou au Yémen. On doit pouvoir parler de ces sujets avant que la crise ne se produise. Et ainsi, le lecteur sera moins surpris lorsque l'événement se produit et il pourra le mettre tout de suite en perspective. Moi, je donne un exemple en politique étrangère. J'ai été frappé quand il y a eu d'un coup une tension entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. La frontière a été fermée, c'est la crise. Je n'avais jamais entendu parler de divergences, de difficultés entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors sûrement que je ne lisais pas des revues suffisamment spécialisées, mais comme beaucoup de Français. Et donc, on a besoin de parler des sujets qui vont arriver dans l'actu. Enfin, on doit essayer de devancer l'actu. On doit essayer de parler des sujets.
C'est quand même un peu compliqué, oui, parce que je pense que les Français s'intéressent, par exemple, à la Catalogne quand il commence à y avoir une crise en Catalogne. Bon, est-ce qu'on peut parler des Rohingyas véritablement tant qu'il n'y a pas vraiment une crise humanitaire ou etc. Est-ce qu'un Français va lire 10 pages sur les Rohingyas? Je ne le sais pas, donc c'est, je pense qu'il faut essayer de trouver un axe à la fois pédagogique ou parfois un angle décalé. Par exemple, cette semaine, il y avait des annonces de Gérard Collomb sur la nouvelle police de proximité du quotidien. Bon, ben, on est allé en Allemagne qui, en fait, depuis 1985, un arrêt du tribunal constitutionnel allemand a obligé, en fait, la police allemande à changer ses méthodes et à être beaucoup plus dans la médiation que dans la répression. Et eux, cette police de proximité, ils la pratiquent depuis 30 ans. Et finalement, tous les pays d'Europe du Nord la pratiquent aussi. Mais en fait, on fait ça maintenant parce que Gérard Collomb vient d'annoncer cette police de sécurité du quotidien. Est-ce qu'on aurait pris 3 pages sur la police de sécurité du quotidien allemande hors cette actualité, je ne sais pas. Donc, bon, il y a, une relation à construire entre l'actualité et le fait de la traiter. Ouais.
Puis je pense aussi, il y a une question de lecteur, on n'a pas trop parlé, mais qui lit aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une désaffection pour la presse. Nous, par exemple, BSC News, s'il y avait un échec à noter, c'est qu'on a toujours su agréger des gens qui avaient une familiarisation pour la presse, une appétence pour la culture. Même en faisant des sujets musique, par exemple, qui sont beaucoup plus larges, de la BD, les gens qui nous lisaient à un moment donné, c'est les gens qui allaient au théâtre, c'est les gens qui vont à l'opéra, c'est les gens qui achètent des livres en librairie. On n'est pas arrivé à élargir suffisamment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi la question centrale de qui lit la presse. Et quels sont les gens qui lisent la presse ? Et je pense après aussi qu'il y a une...
C'est notre enjeu à tous.
C'est notre enjeu à tous. À un moment donné, il faut avoir une appétence pour la culture. On ne peut pas forcer les gens à lire la presse. Donc chez nous, quand on fait de la culture, on fait des sujets effectivement culturels, mais on ne peut pas aller élargir indéfiniment des gens qui n'ont pas envie de nous lire ou qui n'ont pas envie de lire tout court les médias, parce que ça ne les intéresse pas.
Ce que vous nous dites, c'est que
vous avez un vrai enjeu aujourd'hui de société.
Nicolas Vidal, vous nous dites, c'est que vous avez un lectorat qui était déjà très informé et donc ça vous permettait d'attaquer sur des papiers relativement précis, mais qu'il y a un lectorat invisible et que lui, pour l'attraper.
On est appuyé, effectivement, vous avez raison, Emmanuel Taïb, de le dire. Nous appuyons sur effectivement un matelas de lecteurs qui sont extrêmement, qui ont beaucoup d'appétence pour la culture. Donc nous, on ne fait pas de grands reportages. Ce que je définis comme un reportage, c'est se plonger dans des livres. Sélectionner avec soin sur des sujets qui nous paraissent importants, qu'ils soient culturels ou de société, et de prendre un temps long pour le lire, pour le décortiquer, pour l'analyser, et ensuite donner la parole, et également poser des questions, en espérant-le, le plus pertinente possible. Mais ça, ce sont des sujets qui intéressent nos lecteurs, mais notre catégorie de lecteurs, c'est-à-dire des gens qui ont une véritable appétence forte pour la culture. Et nous ne ferons jamais 1 million de lecteurs par mois. C'est inenvisageable. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, un péril pour notre pays de démocratie, puisqu'à un moment donné, on ne naît pas citoyen, on le devient.
Mmh, donc c'est tous ces gens-là, on risque de les perdre. Julien Médès, sur cette question de devancer l'actu, ou voilà, comment on fait
Oui. Bon, d'abord, quand je regarde les sujets qu'on a traités sur le numéro zéro, on a réussi finalement. C'est peut-être pas si compliqué. Hein. Par exemple, on a fait un papier sur la bourse, le fait qu'on a vécu pendant plusieurs années une croissance ininterrompue des bourses mondiales. Et quelques jours après notre papier, où on se demandait si ça allait durer, en fait, hein, c'était ça la question. Et bien, on a eu effectivement un mini crack, hein, quelque sorte, à New York. Donc, on est capable de le faire. On a fait un article sur la police tunisienne et il se passe pas mal de choses en Tunisie en ce moment. Donc, on est capable de le faire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut réconcilier deux choses. Si on dit qu'on veut faire une information lente, qu'on veut prendre le temps d'aller enquêter, on ne peut pas être sur l'événement paroxystique de la crise. C'est-à-dire que sur la police de proximité, si on se concentre sur l'annonce de la création de la police par Gérard Collomb, on ne pourra pas traiter ce sujet par un reportage qui prendra 2-3 semaines et après on va le mettre sur du papier, on va imprimer ce papier, l'emmener chez les gens, etc. On ne peut pas traiter des sujets qui sont aussi ponctuels dans l'actualité. En revanche, on peut parler de la question de la police, de proximité, pour se demander quelles sont les difficultés de la police dans certaines parties de la France. Il y a des difficultés relationnelles entre la police et une partie de la population. Voilà, on peut se poser beaucoup de questions sur la police. Les questions qui font que Gérard Collomb pense que la bonne solution, c'est d'annoncer une police de proximité. Et ces questions-là, elles existent avant l'annonce de Gérard Collomb. Donc il faut être vraiment sur l'actualité. Il faut parler des Rohingyas au moment où il y a un problème, des problèmes qui se posent pour les Rohingyas, mais il faut en parler avant qu'un acteur international aille là-bas pour attirer l'attention de l'opinion sur ce sujet. En tout cas, c'est le positionnement qu'on va essayer d'adopter dans vraiment.
Mais c'est vrai que je suis sensible au fait qu'on a un sujet avec la taille de lectorat. C'est vrai que les gens qui lisent des journaux en France sont de plus en plus vieux et aussi souvent les plus aisés, je veux dire, voilà. Et que donc, comment on fait pour aller chercher ces lecteurs qui lisaient peut-être avant la presse quotidienne régionale, peut-être de temps en temps l'équipe, et qui ne lisent plus de journaux, ou de moins en moins de journaux, et voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que, c'est pour ça que, pour répondre à votre question, nous ne sommes pas seulement un mini 21. C'est-à-dire que si on veut avoir un lectorat large, et c'est pour ça qu'on est aussi très très attentif à aller dans toutes les régions de France, à voilà, il faut proposer des informations courtes et des informations longues, des informations compliquées sur des sujets lointains et des informations de proximité. Bon, je vous donne un exemple. Nous, donc, on a cette séquence qui s'appelle 24 heures avec et qui est donc une triple double, enfin une des pages photos, un reportage photo, une dizaine de photos sur le métier de quelqu'un, sur on a fait une libraire ambulante en Ardèche, on a fait là cette médecin de campagne en Vendée, voilà. Au départ, quand on a dans le numéro zéro, quand on a fait cette rubrique, tous les journalistes, ça les ennuyait profondément, cette rubrique. 500 signes de légende à chaque fois, puis ça paraissait un peu bateau, aller voir une bouchère, un vétérinaire, etc. Bon. Quand on a fait le retour lecteur, c'était plébiscité. Tous les lecteurs adoraient ça parce que ça se voit facilement, c'est un enchaînement d'images et on rentre dans la vie quotidienne par vraiment au niveau granulaire de quelqu'un et de quelqu'un dans lequel on peut se projeter parce que c'est pas une célébrité, il fait pas un métier dingue, voilà, on parle pas des astronautes ou etc. On parle de vraiment quelqu'un dont on s'aperçoit que le conducteur de RER, mais on sait pas la vie qu'il a en fait. Et bon, et donc finalement on s'est remis en question, on s'est dit mais si, il faut faire cette séquence. On se demandait au départ si on allait la garder. Oui, il faut la faire et il faut se l'approprier. Et là, bon, je sais pas, dans le prochain on fait les éboueurs de Dunkerque et en fait c'est hyper riche d'enseignements. Et donc on voit que si on veut obtenir un lectorat, revenir. Le principal défi, c'est qu'il y a de moins en moins de kiosquiers, de points de vente de presse, que la presse n'existe plus sur les marchés, voilà, que pour se faire connaître, c'est devenu difficile. Mais en tout cas, on ne pourra pas faire que des papiers longs avec des points de vue universitaires. Il faut avoir une très grande variété de sujets. C'est ce qu'on essaie de faire parce qu'on nous a reproché de ne pas avoir de cible pour notre lectorat. C'est bien ça, on n'a pas de cible.
Ce qui permet éventuellement d'attraper tout le monde, Nicolas Vidal.
Ben, la réalité aujourd'hui, c'est qu'en France, les gens sont plus prêts à s'abonner à Netflix qu'à acheter la presse. Et là, l'enjeu est là. Et je pense que c'est un enjeu qui nous dépasse tous les trois et l'ensemble des médias. Parce qu'à un moment donné, j'en parlais tout à l'heure, mais l'appétence pour la culture et le choix et le fait d'aller dans un kiosque, s'abonner ou aller sur un site comme chez nous, pour s'abonner à un média, ça demande à un moment donné une réflexion, une envie et je le redis, une démarche vraiment citoyenne. Parce que le débat ne peut passer que par... j'espère que le débat peut passer par la presse. Et aujourd'hui, il y a quand même des priorités dans notre pays qui sont, on va dire, plus mainstream. Hein, Netflix, Spotify, Deezer. Donc on est prêt là à mettre 4 euros, 5 euros, 6 euros par mois pour écouter des titres, plutôt que d'aller se plonger dans un média. Et la question, je pense qu'elle est extrêmement, extrêmement importante. Et j'ai envie de dire, aussi extrêmement effrayante.
C'est la bataille pour le temps de cerveau disponible.
Exactement.
Julien Madès.
Oui, moi je suis d'accord. Effectivement, il faut trouver les moyens, en tout cas, d'élargir notre lectorat. Et déjà, je pense que la première chose à faire, et c'est ce qu'on essaye de faire ici tous les trois, c'est au-delà, oui, il y a moins de kiosques, il y a Netflix, mais il y a surtout peut-être une offre qui ne correspond pas à ce qu'attendent nos lecteurs. Et je crois que chacun ici, on essaye justement de proposer autre chose. Et je pense que c'est la première chose à faire pour amener plus de monde vers la presse. Et après, la deuxième chose, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la confiance. Nous, on s'est beaucoup interrogé sur cette question de comment on rétablit cette confiance. Et on s'est dit, c'est déjà dans notre démarche. En tout cas, la démarche qu'on a essayé d'adopter, c'est de dire ouvrons la porte, soyons le plus transparent possible, publions une charte d'écriture, publions, on a publié aussi 10 engagements, on va publier à bientôt une charte.
10 engagements sur, voilà, au fond, les enjeux de l'écriture et ce que veut faire vraiment.
Voilà, exactement.
Qui est consultable en ligne.
Qui est consultable en ligne sur notre Facebook et sur notre site vrmt.fr. On va bientôt sortir une charte de déontologie aussi. Et puis, on a décidé de faire quelque chose qui, à ma connaissance, n'avait jamais été fait. On a dit, on va faire un numéro zéro et on va le distribuer. On va le distribuer à tous ceux qui le souhaitent. Je me permets d'ailleurs de signaler qu'il reste encore une semaine pour ceux qui souhaitent s'abonner pour recevoir le numéro zéro et participer à ces réunions. Mais on s'est dit, on va le distribuer, on va le montrer, on prend des risques. Hein, on risque de nous dire que c'est mauvais, que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, on va le faire. Et puis, puisque les lecteurs sont, en tout cas pour certains, mécontents de la presse telle qu'elle est, montrons-leur ce qu'on propose et demandons-leur ce qu'ils souhaitent. Et on en tire énormément de choses, on en tire beaucoup d'enseignements, on fait évoluer le projet dans les limites évidemment de nos objectifs initiaux. Mais je pense que c'est la meilleure manière de faire pour faire venir de nouveaux lecteurs, et je crois que de manière différente c'est ce que les autres titres qui se lancent essayent de faire aussi.
Et alors parmi ces 10 points, mais on les a déjà dit en fait au cours de l'émission, il y avait l'idée de donc d'effet, pas d'opinion, intégrer des recherches universitaires, vous l'avez dit, présenter des points de vue différents pour ne pas enfermer le lecteur dans une bulle d'opinion. Bon, il y a un vrai manifeste. Alors du coup, ça amène, moi ça m'a frappé dans Hebdo et dans Vraiment, une forme de d'éclectisme dans le rubriquage par exemple, c'est-à-dire qu'il y a plein de rubriques très différentes, c'est très bien, et on se dit c'est une manière d'attraper un peu ce lecteur fuyant qui est une figure dont le portrait robot est très compliqué à faire, mais on se dit je peux l'accrocher par des sudoku et je peux l'accrocher par un grand reportage. Il faut, ou alors c'est l'idée qu'un magazine doit être complet. Gaëlle Mac,
c'est pas possible, je pense.
Que ce soit, voilà, possible.
Voilà, c'est pas possible. En tout cas, je pense qu'on sort le vendredi et on veut être un peu un magazine où toute la famille trouvera quelque chose qui l'intéressera. Moi, mes enfants, généralement, ils lisent les thémas. Le loup, le miel, c'est souvent des sujets très visuels. Les robots, cette semaine, les cheveux, c'est souvent des sujets très visuels, avec des petites informations, du snacking, souvent un beau reportage. Il y a des belles photos. Bon, l'image est pour nous aussi très importante.
Oui, on en dira un mot.
Voilà. Les petits pourront lire l'histoire pour enfants. On a vraiment fait une histoire pour enfants à lire sur les genoux. Bon, peut-être que le grand-père aimera les mots fléchés, et peut-être que l'ado aimera le témoignage de ce garçon qui a été sous l'emprise d'un gourou pendant 10 ans. Et puis peut-être que les autres seront intéressés, auront du temps le week-end pour lire un grand reportage. Voilà. En tout cas, on se dit qu'il n'y a pas... on n'est pas sur un... On ne fait pas du marketing. Je pense que la plupart des journaux vivent de la publicité. 60% de leur budget, 60%, c'est de la publicité. Ils construisent un lectorat pour leurs annonceurs, pour les publicitaires qui mettent les publicités dans leur page. Donc, ils visent les femmes de moins de 50 ans, les jeunes de plus de 20 ans, de moins de 20 ans, les hommes cadres
actifs,
privés,
etc.
aisés. Mmh. Bon, voilà. Donc, nous, on n'a pas de pub.
Oui.
Voilà, sans page, sans pub. Donc, du coup, nous n'avons pas ces exigences. Et nous, notre exigence, c'est d'essayer de ramener les gens vers la presse. C'est un gros défi et c'est ce qu'on essaye de faire avec, effectivement, des séquences. C'est pas politique, économie, société, voilà, c'est pas classique. Mais on essaye, par la diversité des formats et des approches, de ramener les gens à nous.
Et dans vos trois médias, vous avez parlé d'images, dans vos trois médias, centralité, ou en tout cas, grande importance de la photo, du photojournalisme et du jeu sur la légende, qui n'est pas une légende simplement rapide ou qui donne le nom de la personne, mais qui décrit une action. Donc il y avait aussi là une volonté un peu de renouer avec le photojournalisme, ou en tout cas de faire déjà un bel objet, mais un bel objet informatif.
Oui, oui, il faut pas réinventer seulement le contenu des journaux de ce qu'on met dedans, il faut aussi effectivement réinventer leur forme, essayer d'apporter des choses nouvelles. Donc nous, en tout cas, c'est vrai que la photo est assez centrale dans le projet, d'avoir des belles photos, d'avoir beaucoup de photos. C'est une autre manière de faire passer... De faire passer l'information.
Et là, nous, on a un héritage hein, de 6 mois et de 21. Ouais. Voilà, 6 mois, c'est donc quand même une revue de photos, de photojournalisme. Dans 21, il y avait l'idée d'avoir de l'illustration, de la photo, de la BD. Pour nous, la BD aussi est très importante. On fait souvent passer en BD sur le transhumanisme. transhumanisme, les robots boursiers, autres, des sujets très... On a des BD didactiques qui font passer des sujets très compliqués, qui seraient vraiment très pénibles à lire dans un article, et qui, grâce au dessin, grâce à l'humour, passent très bien. Donc la BD, la photo, ça a toujours été central, et c'est la différence aussi avec le papier. En fait, sur Internet, la photo, l'image est illustrative, mais c'est vraiment un prétexte. Alors que là, quand on a un beau portfolio, on est dans l'univers du journalisme.
Nous, on a travaillé aussi pour permettre essentiellement sur le site Pouch.media, parce que nous, on est quand même essentiellement le site d'actualité. On a effectivement travaillé sur une toute nouvelle génération de sites avec une agence au Paris qui s'appelle Cosa Vostra et qui est spécialisée dans le lancement média et qui bosse avec de très grands médias sur le repositionnement de notre marque. Et on a effectivement travaillé sur les grands visuels. Voilà, c'était important de faire des longs formats. Et bien entendu, c'est notre point d'accroche à nous pour essayer d'attirer les lecteurs qui se sont un peu désunis de la presse. Et on a apporté un soin tout particulier à l'esthétisme d'un site comme celui ici en mettant en avant des photos, des vidéos, de manière à ce que les gens puissent se plonger et une immersion beaucoup plus intéressante dans un sujet.
Merci beaucoup pour votre participation. Cette émission s'achève, donc je vous remercie vraiment d'être tous venus. Gaël Mac pour Hebdo, donc un hebdomadaire, hein, sans pub, d'une centaine de pages. Julien Mendès pour Vraiment, le magazine sera très bientôt en vente. C'est quoi la date
dans
de sortie
numéro 1,
pour le
1 21 mars.
Le 21 mars pour le printemps. Nicolas Vidal pour Pouch, Bimédia, il y aura aussi un magazine mensuel de 28 pages.
Un journal papier.
Un journal papier. Ouais, donc voilà, je souhaite bon vent à vos titres. Cette émission sera en podcast très rapidement sur le site de Fréquence Protestante. Merci à Emmanuel de Misco à la technique. À très bientôt.